Chapitre 11. C'était un samedi, jour de marché, et la rue était pleine de paysans. Sur la grande place que je traversais pour regagner ma voiture, j'aperçus Philas et Labouilly arrêtés devant Turquetin, qui, au son de la grosse caisse et du trombone, arrachait les dents avec tant de rapidité qu'on les voyait voler en l'air comme s'il eût joué avec des osselets. Tout jeune alors, Turquetin n'avait point encore la célébrité que 30 années de bataille contre les mâchoires normandes, plus braves que solides, lui ont si justement acquise. Mais déjà, sa sûreté de main, surtout sa bonne humeur narquoise et gouailleuse, l'avait rendu populaire dans tous les départements de l'Ouest. La foule était compacte autour de sa voiture. Mauvais gymnasiarque, Labouilly était un très remarquable escamoteur, et son grand plaisir était de pratiquer son art en jouant des tours plus ou moins gais aux paysans. Quand je le vis au milieu du public de Turquetin, je pensais bien qu'il était là pour s'amuser, et je restais pour savoir quelle malice il allait inventer. Seulement, comme plus d'une fois à ce jeu il avait récolté des claques, je me tins prudemment à l'écart. Bien m'en prit. Ce jour-là, le jeu, pour mes deux camarades, consistait à prendre leur tabatière aux gens qui prisaient et leur mouchoir à ceux qui ne prisaient pas. Naturellement, c'était Labouilly qui, avec sa dextérité de main, était chargé de fouiller les poches. Le rôle de Philas consistait, quand on lui passait une tabatière, à remplacer le tabac par du marc de café et, quand on lui passait un mouchoir propre, à le barbouiller de tabac. Attentif au boniment de Turquetin, les yeux attachés sur le malheureux patient qui attendait qu'on voulût bien l'opérer, les oreilles pleines du bruit de la grosse caisse ou des éclats de voix du charlatan, insensibles à tout le reste, les paysans se laissaient fouiller comme s'ils eussent été des mannequins inanimés. Déjà, plusieurs avaient tiré leur mouchoir et avaient éternué avec frénésie, au grand contentement des deux complices, qui se tordaient de rire. D'autres, après avoir prisé, regardaient leur tabatière avec une surprise véritablement si comique que l'envie me gagna de prendre une part active à cette mystification. Mais, comme j'allais me joindre à mes camarades, je vis un gendarme se faufiler derrière Labouilly, et, au moment où celui-ci introduisait sa main dans la poche d'une vieille femme, le saisir au collet. Il y eut un grand mouvement dans la foule, une rumeur, et Philas fut aussi arrêté. Sans chercher à en voir davantage, je me dégageai des quelques personnes qui m'entouraient, et, tremblant de peur, je me hâtai de regagner notre campement où je racontai ce qui venait d'arriver. Une heure après, des gens de justice arrivèrent pour faire des perquisitions dans nos voitures. Naturellement, on ne trouva rien, car mes deux camarades n'étaient pas des voleurs. Cependant, on les garda en prison, et les explications de l'appelade tendant à persuader les magistrats qu'il n'y avait là qu'une mauvaise plaisanterie de deux gamins furent si mal reçues qu'il ne dut pas assister, de peur d'être arrêté lui-même comme complice, tout au moins comme receleur. La police n'est pas douce aux saltimbanques, et si un crime est commis dans un pays au moment où il le traverse, ce sont eux les premiers qu'on accuse. Contre eux, il n'est pas nécessaire de prouver qu'ils sont coupables, et c'est à eux au contraire de prouver qu'ils n'ont rien fait. Philas et Labouilly, surpris les mains dans les poches des paysans, ne purent pas prouver qu'ils ne voulaient pas voler, et ils furent condamnés à la détention dans une maison de correction jusqu'à leur majorité. Il fut décidé que, pour boucher le vide que leur absence faisait dans la troupe, je les remplacerais tous les deux. À cette proposition de l'appelade, je poussai les hauts cris. Je n'avais aucune vocation pour me disloquer et m'enfermer dans les boîtes. « Il n'est pas question de boîte, » dit-il en me tirant les cheveux, ce qui, chez lui, était une caresse et un témoignage de bienveillance. Tu as de la souplesse. Tu réussiras très bien dans la voltige. » Ce fut à la foire d'Alençon que je débutai. Par malheur, mon éducation n'avait pu être poussée bien loin, et, quoique mes exercices fussent très simples, ils donnèrent lieu cependant à un accident qui dérangea nos projets de fuite. C'était un dimanche. Nous avions commencé nos représentations à midi, et, sans une minute d'interruption, nous les avions continuées jusqu'au soir. Les musiciens desséchés pouvaient à peine souffler dans leurs instruments. La pelade ne poussait plus que quelques cris, qui étaient plutôt un aboiement qu'un boniment. Le lion ne voulait plus se lever, et, quand Diélette le menaçait de sa cravache, il attachait sur elle sans bouger ses yeux alanguis, qui demandaient grâce. Pour moi, j'étais mort de fatigue, j'avais faim, j'avais soif, je ne pouvais plus remuer ni les bras ni les jambes. À 11 heures, il y avait encore du monde devant notre baraque, et la pelade décida que nous devions donner une dernière représentation. « Je ne connais que les plaisirs du public, » dit-il dans sa courte parade. « Nous sommes exténués, mais dussions-nous tous mourir de fatigue, nous nous devons à votre curiosité. Entrez, entrez !» C'était par mes exercices que commençait le spectacle. Il consistait en sauts périlleux par-dessus 4 chevaux et en tour de force au bout d'une perche que tenait Cabriole. Je réussis assez mal mes sauts, et le public murmura. Lorsque Cabriole me présenta la perche, j'eus la tentation de dire que je n'en pouvais plus. Mais les yeux de la pelade fixés sur moi avec une expression que je ne comprenais que trop, mon amour-propre, l'excitation de la foule, me décidèrent. Je sautai sur les épaules de Cabriole et grimpai à la perche assez facilement. Cabriole était lui aussi fatigué. Au moment où, à la force du bras, je me dressai horizontalement pour former un angle avec la perche, je la sentis vaciller. Mon sang s'arrêta. J'ouvris les doigts et me laissai tomber en étendant les mains en avant. La foule poussa un cri. Je touchai la terre. Le coup fut rude, car je tombai d'une hauteur de 5 mètres. Et sans la couche de sciure de bois, assurément je me serais brisé. Je sentis une violente douleur à l'épaule avec un petit craquement. Je me relevai aussitôt et, comme je l'avais vu faire, je voulus saluer le public qui, debout sur les banquettes, me regardait avec anxiété, mais je ne pus pas lever le bras droit. On m'avait entouré. Tout le monde me parlait à la fois. On m'étouffait. Je souffrais beaucoup et le cœur me manquait. « Ce ne sera rien, » dit la pelade. « Veuillez reprendre vos places. La représentation va continuer. » « Il ne pourra pas faire ça, » dit Cabriole en levant ses 2 bras au-dessus de sa tête. « Les bonnes âmes peuvent dormir tranquilles. » Et le public applaudit en riant formidablement. En effet, pendant 6 semaines, je ne pus pas faire le geste indiqué par Cabriole, car j'avais la clavicule cassée. Dans la banque, on a généralement peu recours aux médecins. Ce fut la pelade lui-même qui m'appliqua un bandage sur l'épaule quand la représentation fut finie. Pour tout remède interne, il me fit coucher sans souper. J'habitais seul la voiture des bêtes. J'étais sur mon lit depuis plus de 2 heures, sans pouvoir dormir, brûlé par une soif fiévreuse, me tournant, me retournant avec colère, sans trouver une bonne position pour mon épaule, quand il me sembla qu'on ouvrait doucement la porte de la voiture. « C'est moi, » dit Diélette à voix basse. « Dors-tu ?»« Non. » Elle entra vivement et, venant à mon lit, elle m'embrassa. « C'est pour moi, » me dit-elle. « Me pardonneras-tu ?»« Quoi ?»« Si je t'avais laissé partir, tu ne serais pas tombé aujourd'hui. » Par le facistas, la lumière de la lune dans son plein frappait la figure de Diélette. Il me sembla voir des larmes dans ses yeux. Je voulus faire le brave. « Ce n'est rien, » dis-je. « Crois-tu que je sois douillet ?» J'essayai d'étendre le bras, mais une douleur aiguë me fit pousser un petit cri. « Là, vois-tu, » dit-elle, « c'est pour moi !» Et, avec un brusque mouvement, elle défit sa camisole. « Tiens, regarde, » dit-elle. « Quoi ? Tâte, là !» Elle me prit doucement la main et la posa sur son bras. Je sentis comme du sang. « Quand j'ai vu que tu avais l'épaule cassée, » dit-elle, « je me suis mordu le bras tant que j'ai pu, pour que ça me fasse bien du mal, parce que, quand on est amis, il faut souffrir ensemble. » Elle dit cela avec une énergie de sauvage, et ses yeux reflétèrent la lumière de la lune comme s'ils eussent été des diamants. Ce qu'elle avait fait était absurde, mais je me sentis tout ému et j'eus envie de pleurer. « Es-tu bête ? » dit-elle en devinant mon émotion. « Tu en aurais fait autant pour moi. Tiens, je t'ai apporté du raisin que j'ai pris dans le coffre. As-tu faim ?»« J'ai soif. Le raisin me fera du bien. » Elle alla encore me chercher une tasse d'eau, sans faire plus de bruit qu'une ombre. « Maintenant, » dit-elle, « il faut dormir. » Elle m'appuya la tête sur le traversin. « Il faut guérir bien vite pour que nous nous sauvions. Le jour où tu pourras marcher, nous partirons. Je ne veux plus que tu remontes à la perche. Ça n'est pas fait pour toi, ce métier-là. » « Et si la Pollade me force ?»« Lui, je le ferai plutôt manger par mouton. Ce n'est pas difficile, va, un coup de patte, un coup de dent, crac !» Sur le seuil de la porte, avant de la refermer, elle fit un signe d'amitié. « Dors !» Il me sembla que mon épaule était moins endolorie. Je trouvai une position pour m'étendre et m'endormir en pensant à ma mère, le cœur ému, mais pas trop attristé. Ce qu'il y avait de plus fâcheux dans mon accident, c'est qu'il retardait notre fuite et nous amenait fatalement à la mauvaise saison. J'avais bien pu coucher en plein champ pendant les belles nuits d'été, mais en novembre, quand les nuits seraient longues et froides, avec de la pluie, de la neige peut-être. Diélette ne me laissait rien faire, et c'était elle-même qui soignait les bêtes. Elle montrait plus d'impatience que moi de me voir guéri, et quand je lui disais quelquefois qu'il serait plus prudent d'attendre le printemps, elle se fâchait. « Si tu restes avec eux, » disait-elle, « tu seras mort au printemps. La Pollade veut t'apprendre un tour de trapèze. Tu n'en réchapperas pas. Et puis, nous nous éloignons toujours de Paris. Au printemps, nous serons peut-être dans le Midi. » C'était là une raison déterminante. Il fallait se dépêcher de guérir. Tous les matins, je passais l'inspection devant Diélette. Pour cela, je m'appuyais le dos contre la cloison de la voiture et je levais le bras autant que je pouvais. Avec son couteau, elle faisait sur la cloison une marque à la hauteur où je m'arrêtais, et ainsi, en comparant cette hauteur à celle de la veille, nous suivions jour par jour la marche de la guérison. D'Alençon, nous étions venus à Vendôme, et de Vendôme à Blois. De Blois, nous devions aller à Tours, où je reprendrais mes exercices. Il était donc décidé avec Diélette qu'à Blois, nous quitterions la caravane et que, par Orléans, nous nous mettrions en route pour Paris. Elle m'avait donné son argent, et chez un brocanteur de Vendôme, j'avais acheté une vieille carte routière de la France. Avec une épingle à cheveux, je m'étais fabriqué un compas et j'avais compté comme distance de Blois à Paris 40 lieues. C'était bien long au mois de novembre, quand les journées sont à peine de 10 heures. Diélette, qui ne savait pas marcher, pourrait-elle faire des étapes de 6 lieues? Elle l'affirmait bravement, mais moi j'en doutais. Dans tous les cas, c'était un voyage d'une semaine. Heureusement, elle avait augmenté ses économies, qui montait maintenant à 10 francs. Notre provision était faite, mes souliers étaient achevés, et elle avait eu la chance de ramasser sur la route une vieille couverture de cheval sur laquelle nous comptions beaucoup pour nous envelopper la nuit. Nous étions donc prêts, et nous n'attendions plus pour partir que la parfaite guérison de mon épaule, qui, d'après nos calculs, et surtout d'après les progrès constatés par l'écran de la cloison, devait coïncider avec la fin de notre séjour à Blois. Mais une révolte de moutons, d'ordinaire si pacifique, nous retarda encore. Un soir, deux Anglais, qui avaient beaucoup applaudi Diélette, s'approchèrent d'elle lorsque le public fut sorti et demandèrent qu'elle recommençât ses exercices. La Pollande accepta cette proposition avec d'autant plus d'empressement qu'elle était faite par deux hommes qu'un dîner abondant semblait avoir disposé à la générosité. Diélette rentra dans la cage. Charmante, cet enfant, très brave. Et ils recommencèrent à applaudir. Je ne sais quel sentiment d'amour-propre excita la jalousie de la Pollande, mais il dit que si elle pouvait se livrer aussi tranquillement à ses jeux avec le lion, cela tenait à l'éducation que lui, la Pollade, avait su lui donner. « Vous ?» dit le plus petit de deux Anglais, un très joli garçon rose et blond, « vous êtes un blagueur, vous n'entreriez pas dans la cage. »« Dix louis contre un que vous n'entrez pas, » dit le second. « Je les tiens. » « Bien, mais la petite fille va sortir et vous entrerez seule. » C'est peut-être un préjugé de croire qu'il faut un grand courage pour entrer dans les cages des bêtes féroces. « La cravache !» dit la Pollade à Diélette. « Entendu, » dit le petit Anglais, « que l'enfant va s'en aller et qu'elle ne reviendra plus. »« Entendu ?» Nous étions tous là, Cabriole, Madame la Pollade, les musiciens et moi qui devaient ouvrir la porte de la cage. La Pollade se débarrassa de son costume de général. « Si ce lion est intelligent, » dit l'un des Anglais, « il ne lui fera pas de mal. C'est de la viande trop coriace. » Et ils se mirent tous deux à plaisanter en se moquant de notre patron, ce qui nous faisait bien rire. « Intelligent ?» Mouton l'était assez pour avoir gardé le souvenir des coups de manche de fourche que la Pollade lui administrait souvent à travers les barreaux. Et il se mit à trembler quand celui-ci entra bravement dans la cage, la cravache haute. Cette attitude de la bête encouragea la Pollade. Il crut qu'il était maître du vieux lion et lui cingla un coup de cravache pour le faire lever. Mais les coups de cravache ne ressemblent pas aux coups de fourche. Mouton comprit qu'il tenait son ennemi en son pouvoir. Un éclair de courage frappa sa cervelle abrutie, il se dressa tout debout en rugissant, et, avant que la Pollade eût pu faire un pas, il se laissa retomber sur lui. La Pollade s'affaissa sous les deux pattes formidables, dont on voyait les ongles se crisper, et le lion le roula sous son ventre avec un hurlement rauque. « Je suis mort !» cria la Pollade. Courbé sur lui, le lion nous regardait à travers la grille. Ses yeux lançaient des flammes. De sa queue, il se battait les flancs qui résonnaient comme un tambour. Cabriole saisit une fourche et frappa dessus à coups redoublés. Il ne bougea pas. Alors, un des Anglais tira un revolver de sa poche et l'approcha de l'oreille du lion qui touchait presque les barreaux. Mais d'un geste rapide, Madame la Pollade lui releva le bras. « Ne le tuez pas » cria-t-elle. « Ah oh !» dit l'Anglais. « Elle aime mieux son lion que son mari. » Et il murmura quelque chose en langue étrangère. Le tapage, les cris, avaient attiré Diélette. Elle courut vers la cage. Un des barreaux était disposé de manière à s'écarter et à livrer passage à son corps fluet si elle était surprise, sans cependant que le lion pût y passer sa grosse tête. Elle écarta ce barreau et entra dans la cage sans que Mouton, qui lui tournait le dos, la vît. Elle n'avait pas de cravache. Elle lui sauta courageusement à sa crinière, Surpris de cette attaque et ne sachant d'où elle venait, il se retourna si brusquement qu'il la renversa contre les barreaux. Mais en voyant qui elle était, il laissa retomber sa patte déjà lancée pour la broyer. Et se relevant de dessus la pelade, il alla se blottir dans un coin. La pelade n'était pas mort, mais si contusionné qu'il fallut le tirer à force de bras pendant que Diélette maintenait du regard le lion honteux. Elle sortit elle-même en boitant. Le lion lui avait tordu la jambe et elle avait une foulure qui la retint pendant 8 jours sur une chaise, tandis que la pelade gardait le lit à moitié mort, déchiré, crachant le sang. Enfin, au bout de 15 jours, elle me déclara qu'elle pouvait très bien marcher sans douleur et que le moment était venu de mettre notre projet à exécution. Retenue par ses blessures, la pelade ne pourrait pas nous poursuivre.